Et nous achevons cette deuxième série de communications avec Daniel Durand, qui a été membre de la Fédération de la Loire CFDT. Pardon, excusez-moi. Oh là là. PCF. Non, mais c'était pour le rapprochement et la convivialité.
Je savais que la fin de l'après-midi.
Oui, la fatigue, voilà. La
ça
fatigue
se
fait sentir. Donc, toutes mes excuses, membres de la Fédération de la Loire, du PCF. Voilà, donc, qui va terminer l'après-midi avec une communication sur la Fédération de la Loire du PCF. Oui. Donc, le titre de sa communication, c'est « La Fédération de la Loire du PCF », je dis bien, « Face à la crise du bassin stéphanois ».
Bien, pour être donc précis, comme je fais partie des ovnis de la journée, des objets pas trop bien identifiés, voilà. Brièvement, dans ma vie d'adulte, j'ai eu 4 vies, en fait. J'ai une première vie professionnelle comme instituteur, jusqu'en 76. J'ai une vie d'une quinzaine d'années, de 70 à 85, comme militant communiste. Et à ce titre, pendant 5 ans, j'ai été membre du secrétariat de la Fédération du PCF. J'ai eu une vie ensuite, on va dire, pendant une quinzaine d'années, de militant du mouvement de la paix. À ce titre, pendant 8 ans, j'ai été premier secrétaire national du mouvement de la paix. Et ma quatrième vie, à partir de 2002, j'ai eu la chance de pouvoir entrer à l'université à Grenoble pour après validation de mes acquis personnels. Donc j'ai passé un DEA de relations internationales et défense. J'ai commencé une thèse sur la France et le désarmement, mais j'ai pas eu le courage de Jean-Paul Wendier et d'autres. Donc je me suis un peu assis sur ma thèse au bout de 3 ans. Elle m'a permis quand même de publier quelques ouvrages sur les questions internationales, de continuer d'animer un blog de relations internationales. Et donc, dans mes loisirs, j'ai contribué à la création du CEDMO 42, à l'histoire donc, voilà, de cette partie du mouvement ouvrier dans la Loire. Pour moi, en choisissant évidemment ces deux dates symboliques, 63-83, lorsque je réfléchis sur ce qui a été l'action de la Fédération du Parti communiste pendant cette période, à mon avis, il me semble qu'elle a été marquée par deux défis majeurs et deux autres, disons, de second rang. Ces deux défis majeurs, c'est le premier, c'est comment agir pour conserver à la Loire son caractère industriel et historique, le triptyque charbon, acier, textile, ce qui était une évidence pour les militants communistes de cette période, qui majoritairement étaient issus de ce milieu ouvrier et dont la culture marxiste valorisait la production industrielle. Et la deuxième question essentielle, c'était aussi, je pense, dans ces années 60, comment sortir de l'isolement politique lié à la guerre froide, aggravé par la prégnance de la domination gaulliste, et en même temps conserver dans ce cadre aussi l'hégémonie à gauche par rapport à la SFIO. Les deux enjeux de deuxième rang, je dirais, qui se sont posés très localement, c'est à la fin des années 60, comment gérer au mieux le renouvellement des dirigeants politiques, du personnel politique qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance, que l'on parle de Théo Vialmassa, que l'on parle de Michel Ledagnier, que l'on parle de Joseph Stanglitz. Comment donc gérer ce renouvellement? Et à partir des années 70, c'est comment faire face d'un point de vue, disons, de structuration, d'implantation, comment faire face à l'écroulement progressif des différents bastions industriels dans lesquels le Parti communiste était majoritairement implanté dans le département et qui subissent de plein fouet des restructurations industrielles. Voilà. Dans ce cadre, j'ai posé 3 périodes chronologiques, 63-71, que j'appellerai la sortie progressive de l'isolement, 71-79, une certaine contre-offensive économique et co-politique des communistes de la Loire, et 79-83, mais en fait 86-87, les désillusions et le retour en somme aux réalités, quoi, et l'échec donc des efforts locaux tentés. lié évidemment au contexte national. Alors, dans cette période des années 63-71, j'ai pris trois points. D'abord, le niveau économique. À cette époque, à mon avis, les préoccupations économiques essentielles des communistes dans le département sont centrées, évidemment, sur les menaces qui se développent autour de l'écroulement de l'exploitation minière à la suite du plan Jeanneney de 60. Les communistes essayent, mais avec beaucoup de difficultés, de combattre le fatalisme et l'acceptation de la conversion qui gagne très rapidement du terrain dans la Loire avec les expériences de la fin des années 60, de reconversion sur les zones de la Taludière, etc. On note que, par exemple, en 66, il essaye de lancer un débat, on a parlé tout à l'heure de cette année 66, hein, je ne me souviens plus quel intervenant, il essaye de prendre pied sur le débat avec un débat avec Théo Vialmassa, qui est à l'époque député, qui se réaffirme un soutien au maintien de l'exploitation charbonnière et demande la venue d'industries nouvelles, mais il n'y a pas dans cette période d'action concrète engagée. C'est plus un travail d'information, d'explication sur le plan des idées. Les actions les plus concrètes qu'on peut dégager, c'est à la veille des événements de 68, c'est une conférence débat avec des partis de gauche, hein, sur le thème le chômage n'est pas fatal, c'est d'ailleurs les communistes qui président. Et en juin 68, le PCF arrive à publier avec la FGDS un plan d'urgence économique et sociale pour la Loire. Mais en dehors de ces deux faits un peu concrets, dans cette période, on peut dire que l'essentiel de l'intervention des communistes est plus un positionnement de soutien aux revendications syndicales, aux luttes revendicatives générales. La deuxième série de remarques que je ferai dans cette période, c'est une période où donc la fédération du PC, comme au niveau national, mais avec une certaine réussite sur le plan départemental, gagne des points d'appui. Elle gagne des points d'appui. Le premier, évidemment, elle bénéficie des retombées positives de la grève des mineurs de 63 qu'elle a soutenue, qu'elle a accompagnée, donc dans lequel elle a été à l'aise. Et donc la déclaration du bureau départemental à la fin de la grève des mineurs est très nette. La fédération appelle à contribuer à renforcer l'union de tous les travailleurs dans le succès de cette grève. Ouais, peut-être que je n'oublie pas de... J'étais un peu trop. Voilà. Oui. Un autre point d'appui qu'on peut noter dans cette période, c'est évidemment un certain regain de prestige dans un certain nombre de milieux ouvriers liés à la présence très active des communistes sur tout le terrain des luttes anticoloniales, donc la lutte contre la guerre d'Algérie, puis ensuite la lutte contre la guerre du Vietnam, surtout que dans la Loire, il se crée des collectifs d'associations très, très fortes, hein, ce que l'on appelle le carrefour, notamment pour la paix en Algérie, dans lequel les communistes jouent un rôle actif. En même temps, disons parallèlement donc à cet effort de la fédération, celle-ci va enregistrer des premiers succès électoraux. En 62, c'est un peu la divine surprise, parce que dans une élection triangulaire, Théo Vialmassa est élu à Firmini, député de Londres face à Claudius Petit. Hein. Et en 65, autre phénomène de triangulaire à Saint-Étienne, Michel Ollagnier est élu conseiller général face à Michel Durafour. Hein, donc deux éléments, deux gains intéressants. Et en 65, aux mêmes élections municipales, le PC regagne la municipalité de la Ricamari avec Fernand Montagnon et celle de la Talaudière avec le docteur Jean Platet. Hein. Par contre, 67 va être une année noire pour les communistes dans la Loire, puisque dans les deux cas triangulaires, ils se reproduisent les deux élections, il y a les législatives, il y a les cantonales, et les triangulaires se transforment en duel, et donc le siège de député est perdu par Théo Vialmassa, et le siège de conseiller général est perdu par Michel Ollagnier à Saint-Étienne. Par contre, trois ans après, la tendance lourde reste quand même dans le département après les événements 68, plutôt favorable au PC, il y a eu un petit débat là, ce matin, je crois, hein, elle reste plutôt favorable au PC, puisque aux élections cantonales de 1970, le PC dans la Loire gagne deux sièges de conseillers généraux avec Théodore Almassa et Fernand Montagnon dans l'Ondaine, et au municipal qui suit de 71, Théodore Almassa gagne la mairie de Firminy. Donc on peut dire que l'après 68 est plutôt dans le département une période d'engrangement de gains politiques pour le PC, puisqu'il se retrouve avec 5 maires, 2 sièges de conseillers généraux. Donc il a amené, disons, qu'un retour politique qui se situe dans les meilleures eaux depuis la guerre. Le troisième éclairage de cette période, c'est la question de la direction communiste. Donc, je l'ai dit, Théodore Almassa est à la tête de la fédération du PCF depuis 1953, mais en même temps, disons que c'est un homme politique dans le département, donc depuis la Libération. Michel Audagnier est chef de file des communistes stéphanois depuis aussi les années 50, et pendant un an, il est secrétaire de la fédération de 52 à 53. Et Joseph Sandol, c'est secrétaire de l'UDCGT depuis 55, depuis l'élection de Marcel Thibault au siège de député, ou 56 plutôt, depuis l'élection de Marcel Thibault. Donc, ce sont des hommes qui sont encore jeunes, qui ont 50 ans, mais qui sont en responsabilité depuis 20 à 25 ans. Donc, il y a quand même pour certains, il y a des phénomènes d'usure qui peuvent commencer à se manifester. Au niveau national, il est certain qu'à cette époque, il y a un souhait de renouvellement de la direction politique de la Fédération de la Loire, et il y a un effort qui est un effort de direction nationale pour promouvoir un cadre de remplacement en la personne de Serge Gaillard, qui est un jeune ouvrier métallurgiste stéphanois, et qui est aussi, en même temps, apparenté à des vieilles familles communistes stéphanois, puisque c'est un neveu des Ramiers, qui sont donc des dirigeants syndicaux, déportés, etc., donc qui représentent quelque chose d'important dans les représentations à l'échelle locale. Et on peut dire qu'à la veille, en début 71, la direction communiste est en difficulté parce que Théodore Almassa va être élu maire donc au municipal de 71, donc il est très peu présent. Le candidat de remplacement qui a assuré son intérim pendant plusieurs années, dans les années 60, ses années de député, Serge Gaillard, et lui, pour des raisons personnelles, hors compétition. Les autres cadres de la Fédération de la Loire, intermédiaires de la Fédération de la Loire, il y a eu une rotation relativement rapide, pour des raisons d'ailleurs qui mériteraient d'être travaillées, que je n'ai pas eu le temps de faire. Hein. Paul Bernard, Théo Ronco, qui est envoyé comme correspondant de l'Humanité au Vietnam, Salvatore Lombardo, si bien que la Fédération de la Loire du PCF début 71 est dirigée par un ancien dirigeant de la jeunesse communiste, Maurice Tollet, qui assume un intérim, mais dans des conditions très, très compliquées. Donc, à la fin de cette première période, on peut dire que la Fédération de la Loire a réussi une partie donc, de ses objectifs de sortir de l'isolement politique, sur le terrain social, qu'elle a un positionnement qui lui est relativement favorable, mais sans jouer, je pense, un rôle propositionnel très fort. Elle a élargi sa base électorale, mais par contre, sa direction est en difficulté et les chiffres montrent que son implantation organisée stagne. Alors, l'élection de Théodore Almassa en 71, donc va accélérer la nécessité de trouver une solution durable pour le remplacer. Et il y a à ce moment-là des négociations avec la direction nationale du PC et Joseph Sandol, qui est membre, secrétaire de l'UDCGT, mais en même temps membre du comité central du PC, pour dégager un cadre Et c'est donc un peu c'est le dauphin, celui qui était présenté comme le dauphin de Joseph Sandels à cette époque, en 71 pour le remplacer, Marc Bruyère, qui va être élu à la direction de la Fédération départementale, alors qu'il est peu connu dans le PC, qu'il est adhérent du PC depuis seulement 2 ans, depuis 1969. Le secrétariat est complètement renouvelé, puisqu'avec Marc Bruyère arrive un autre militant qui va jouer un rôle évidemment important, c'est Paul Chauma, donc un militant stéphanois, un militant syndical du syndicat des instituteurs, lui aussi vieille famille de communistes stéphanoises, et ces deux hommes vont jouer un rôle donc dans la décennie 70. Marc Bruyère, par ses liens syndicaux très forts, donc cela va renforcer les liens, on peut, dans une série d'actions avec avec la direction syndicale de la CGT. Et on va avoir un homme qui est très offensif. Donc les initiatives politiques du PC vont se modifier, y compris en tenant compte du contexte de signature du programme commun, vers des initiatives beaucoup plus propositionnelles, j'allais dire. Et avec Paul Chauma, on va avoir un homme qui va jouer un rôle majeur dans la prise en compte à Saint-Étienne des mutations urbaines, avec les nouveaux quartiers comme Moreno, qui va s'inscrire dans des orientations certes nationales, mais auxquelles il va donner une efficacité certaine, c'est-à-dire la création à cette époque des comités de ville, des organisations locales communistes dans les grandes villes, hein, pour améliorer leurs coordonnées. Et ce qui va permettre donc son élection au Conseil général en 1976. La dernière étape dans la mutation des directions, des dirigeants, aura lieu de fait aux élections municipales de 1977, puisqu'il y aura le changement de tête de file des communistes. Michel Ollagnier donc, ne sera pas la tête de liste des municipales à Saint-Étienne, et ce sera donc Joseph Sandels qui sera le candidat qui sera trouvé, enfin qui sera pour, disons, que permettre une efficacité et un changement d'image de la liste d'union conduite par les communistes aux élections municipales. Et ce qui en même temps va amener la question du remplacement, de la mutation, du remplacement de la direction syndicale, du changement donc évidemment du remplacement de Joseph Sandels à l'Union départementale CGT, et c'est là ce qui sera le troisième changement seulement depuis la Libération, puisque le premier c'est celui de Marcel Thibault avec Joseph Sandels en 1956, donc c'est le troisième changement, et le choix est, je pense, sous une pression forte des militants communistes, c'est le choix de Claude Fournier, qui est le responsable de la fédération du syndicat de la métallurgie CGT, et qui lui aussi fait partie des réseaux communistes, des vieilles familles communistes de Saint-Étienne, puisque par sa femme, il est lui aussi apparenté aux Ramiers, puisque sa femme est une sœur des Ramiers. Voilà. Là, pendant cette période, en essayant d'accélérer, de 70 à 90, le changement de direction départementale, avec le contexte national, va se traduire par des initiatives économico-politiques beaucoup plus marquées. Dès 72, avec la publication d'un document, la Loire à la croisée des chemins, qui aborde la question donc du maintien de l'exploitation charbonnière et du développement de la sidérurgie face aux menaces, avec des contacts qui sont noués au niveau, disons, de la Fédération des mineurs CGT pour qu'il y ait une relance de la lutte pour empêcher la fermeture des houillères qui est programmée pour fin 73, pour le 1er janvier 74. Et donc, pendant les initiatives vont se multiplier sur ce plan, si bien que les houillères vont annoncer le report de la fermeture en 1980. Pendant ces années-là, jusqu'en 77, 78, Les communes de la Loire vont prendre un certain nombre d'initiatives. J'ai en 76 l'idée d'un centre national de la machine-outil à Saint-Étienne. En 79, les propositions le charbon un outil pour la Loire, puis celle d'un centre national de l'arme et de chasse et de tir. Alors, la rupture du programme commun arrive en 77. Elle ne va pas modifier fondamentalement cette démarche de proposition de la fédération communiste, mais en même temps, elle va l'inscrire dans un cadre complètement, qui devient assez différent. D'une part, le sentiment de rejet de la politique gouvernementale giscardienne devient plus fort. Les militants communistes estiment qu'ils ont besoin de nouveau de ne pas être isolés du fait de la désunion du programme commun. Et donc, il y a un besoin de protéger la municipalité de Saint-Étienne. Et donc, en septembre 1978, la Fédération communiste lance l'idée de la thématique du département sinistré et de l'organisation d'un département mort ou d'action très large unitaire. C'est là qu'il y a la fameuse affiche de « La Loire veut vivre » qui était évoquée ce matin. Et donc, il y a les 25 organisations vont annoncer une journée d'action le 15 décembre, la Loire veut vivre et c'est possible. Puis, dans la foulée, il y aura le 20 février les 50 000 personnes dans les rues de Saint-Étienne sur les mêmes thématiques. Alors, il faut noter qu'après 1979, du fait, ça rejoint le débat sur le lien politique, lutte, etc., il n'y aura plus de rassemblement unitaire de cette taille, de cette ampleur à Saint-Étienne. Il n'y en aura plus qu'un d'ampleur importante, c'est le 18 octobre 80 pour la défense de Manu France, mais il est lancé à l'initiative essentiellement de la CGT et relayé par le PC, avec où on peut dire qu'il y a on est dans une situation où il y a marginalisation de fait des autres organisations syndicales et politiques, ce qui laissera des traces évidemment dans les relations y compris locales. Voilà. Je n'ai pas le temps d'aborder les évolutions. Je n'ai même pas de temps du tout. Hein. Donc, on laissera pour une contribution écrite la dégradation après 1979, où l'aggravation de la crise, les conflits Manu France et sidérurgie vont petit à petit voir la situation politique à Saint-Étienne se revenir à un niveau classique. Si en 81, le PC réussit à faire élire deux députés, hein, à partir en 83 puis en 86, progressivement, ce qu'on pourrait appeler une certaine exception stéphanoise va se normaliser et la Loire va, dans la Loire, disons que le rapport de force communiste et autres forces de gauche va s'aligner sur le plan national. Merci.